épiscopal et Monseigneur Fontaine de lancer dans cette aventure qui a commencé jeudi soir à Vannes et puis ce matin, voilà, à Lorient, en début d'après-midi jusqu'à 16h, à Pontivy maintenant, à Plouermel. Alors l'Athénée, c'est un institut diocésain de formation souhaité par Monseigneur Fontaine qui a pour première mission de donner un socle commun de connaissances, de culture. Par exemple, il n'y a pratiquement plus aucune formation qui est proposée par le diocèse, car l'idée, c'est de permettre à toutes et à tous de commencer par l'année 1 de l'Athénée, celle à laquelle vous participez. Et ensuite, il y aura année 2, année 3. Alors, pour celles et ceux qui ont envie de poursuivre, on va par exemple lancer une formation diocésaine pour les aumôniers d'hôpitaux, lancer une formation en lien avec le service de l'art sacré et la liturgie, former des guides pour nos églises, pour la cathédrale de Vannes, pour la basilique de Sainte-Anne-d'Auray. Ouais, on va monter petit à petit pour l'année prochaine donc des formations spécifiques en lien avec les services diocésains. On va aussi monter tout un cycle pas besoin de micro. Ça va, non ?
Oui.
Oui, voilà. Si j'ai plus de voix, je vous dirai. Mais... Un cycle aussi sur la doctrine sociale de l'Église, avec plusieurs partenariats. Alors voilà, on est en train aussi de discuter avec des partenaires parce qu'on se rend compte que voilà, c'est bien d'organiser des formations, mais on s'est rendu compte et on a vu aujourd'hui que c'est mieux si on peut aller à la rencontre des uns et des autres là où ils vivent. Et pas uniquement tout proposer à Vannes, et c'est aussi la nouveauté hein, de cette Athénée, c'est qu'il y a 4 lieux de formation cette année, mais l'idée c'est d'en développer un peu plus et nous allons au cours de cette année enregistrer, filmer, mettre en son et en lumière les différentes formations que vous aurez cette année, pour ensuite proposer aux paroisses, dès l'année prochaine, un kit formation, avec toutes les interventions que vous aurez, vous, en présentiel cette année. Si on peut les faire l'année d'après, très bien, mais au moins, toutes les interventions seront bouclées à la manière des apéritifs numériques que vous avez reçus pendant l'Avent. Voilà, le cours que je vais vous faire cette année, il va être filmé aussi à Vannes, et mise en image à la manière des apéritifs numériques que vous avez reçus pendant l'Avent pour vous faire patienter. Alors, chaque cours va commencer par 20-25 minutes autour d'un texte biblique avec de l'exégèse. Et ensuite, on terminera par une prière. Alors, cette première partie est assurée normalement en présentiel. J'aime pas trop ce mot, mais voilà. En live, soit par le père Patrick Monnier qui est vicaire à Vannes, soit par le père Yvan Brien qui est vicaire général. Voilà, et comme aujourd'hui c'était le père Patrick Monnier qui doit assurer, c'était son jour, il ne peut pas être parmi nous. Donc nous avons mis en image, nous avons filmé le père Patrick Monnier, mis en image pour nous permettre de rentrer dans ce premier cours de l'Athénée. D'ores et déjà, je vous remercie de nous faire confiance et de participer à cette nouvelle aventure diocésaine.
Bonjour à tous. Voilà, bienvenue dans ce parcours Athénée. Pour chaque cours Athénée, il y aura une introduction biblique qui introduira le thème du cours. Et donc là, nous sommes dans les fondements, l'introduction générale de ce parcours. Et donc, je vous propose de prendre l'évangile de la profession de foi de Pierre. Dans l'évangile selon saint Matthieu, nous sommes au chapitre 16. Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples, au dire des gens, qui est le Fils de l'homme? Ils répondirent, pour les uns Jean le Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres encore Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus leur demanda, et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Alors Simon-Pierre prit la parole et dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il ordonna aux disciples de ne dire à personne que c'était lui le Christ. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Voilà, on vous a remis un petit carnet bleu Athénée. Alors, le but, c'est pas que vous l'utilisiez comme carnet de notes pour tous les cours, sinon je peux vous dire que même dans une heure, vous allez voir Mme de Longvilliers pour demander un deuxième. Mais ce carnet, c'est un compagnon de route, un compagnon de voyage, sur lequel vous pourrez inscrire une phrase, un mot, une référence bibliographique, une citation qui vous aura marqué tout au long de cette aventure. Et là, je vous propose de prendre un instant en silence pour relire à tête reposée personnellement cet évangile. Voilà, des mots, des phrases qui vous ont marqué, qui vous interpellent, qui peuvent vous choquer. Voilà une petite case qui a été indiquée, construite à cet effet. Et après, comme à l'école, eh bien, vous pourrez coller ça dans votre cahier. C'est vraiment pour vous, il n'y aura pas de retour. Et nous poursuivons.
Donc après ce petit temps en silence où chacun de nous a pu noter peut-être une parole qui l'a touché dans cet évangile, une parole qui l'a consolé, une parole qui lui a parlé dans sa vie, ou une parole justement qui l'a peut-être choqué, cette parole on l'a mise sur nos carnets, et ça nous permettra une relecture justement à la fin du parcours Athénée. On verra toutes ces paroles, comment Dieu nous a guidés à travers toutes ces paroles de Dieu qui est une parole vivante, qui est une vraie rencontre avec le Christ. Petite introduction à partir de ce texte, on voit bien qu'on assiste à un récit, voilà, un récit qu'il soit biblique ou autre, mais toujours en scène un ou plusieurs personnages, et ce, dans un espace-temps qui est déterminé. Autrement dit, il nous donne tous les indicateurs hein, dans le texte, tous les indicateurs, tous les indices pour pouvoir répondre à ces trois questions fondamentales qu'on se pose en lisant un récit. Qui, où et quand. On se pose aussi d'autres questions. Quelle est l'action, donc le quoi et comment ça se passe. Mais les trois questions primordiales vont être le qui, le où et le quand. Alors, c'est les trois questions qu'on va se poser. Quand? Quand est-ce que ça a lieu? Là, on n'a aucun indicateur précis de temps qui est présent dans le texte. Aucun n'est mentionné. Et cependant, on note dans le fil, le déroulement de tout l'évangile, on note que le passage qui va suivre, c'est la première annonce de la passion. On sait que dans les évangiles synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, Jésus va annoncer par trois fois sa passion. Et donc, on est dans un tournant dans l'évangile. Dans chaque évangile synoptique, on est dans un tournant. En fait, nous abordons, à partir de là, nous abordons l'ultime montée de Jésus vers sa passion à Jérusalem. Et donc, nous sommes dans une tension dramatique. Dans le récit, on va assister à une tension dramatique. Ça, c'est pour le quand. Le où. Où est-ce que ça se passe ? On lit que l'action se déroule dans la région de Césarée de Philippe. En fait, cette ville, elle est créée en moins d'eux par le tétrarque Philippe, qui est fils d'Hérode le Grand, pour en faire justement la capitale de son royaume. On va prendre notre carte. On voit qu'on est tout au nord du pays, où on a le mont Hermon, et juste un peu au sud du mont Hermon, nous avons Césarée de Philippe. À Césarée de Philippe, nous sommes aux sources du Jourdain. Les sources du Jourdain, qui marquent la frontière entre Israël et la Jordanie, une frontière très importante, et nous savons ce qui s'est passé dans le Jourdain, c'est le lieu du baptême du Christ. Quand nous montons à Césarée de Philippe, nous montons aux sources du Jourdain, donc aux sources du baptême. Ça, c'est en moins d'eux. On monte un petit peu quelques siècles auparavant, au moins 3e siècle, nous sommes dans la période hellénistique, la période d'occupation du territoire par les Grecs, et nous voyons que c'est un haut lieu du paganisme. Le site, à l'époque, s'appelle Banias. Banias. On voit actuellement dans les recherches archéologiques un certain nombre de niches sacrées qui ont été sculptées, voilà, pour représenter des divinités. Il y avait des sacrifices d'animaux qui étaient faits, qui étaient jetés dans une grotte sacrée. Et tout cela pour rendre un culte au dieu Pan. Le dieu Pan, Banias, Panias, hein, c'est celui qui a donné justement la flûte de Pan. En fait, le dieu Pan, c'est le protecteur des bergers et des troupeaux. Et c'est justement dans ce lieu où Pierre s'entend dire de la part de Jésus, « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Reçois les clés du royaume. Hein » et donc c'est à partir de ce moment-là où Pierre se voit confier par Jésus, justement, les brebis du troupeau qui est l'église. Et donc le lieu n'est pas anodin. On est aux sources du Jourdain, donc aux sources du baptême. Pour nous, c'est important. C'est le lieu de la profession de foi de Pierre. Et qu'est-ce qu'on fait avant d'être baptisé? On professe notre foi. Et puis, c'est justement aussi un lieu dans le paganisme où il y a un berger représenté, le dieu Pan. Et là, le berger, ce sera le Christ, qui donne justement ce pastorat, cette charge d'être berger des brebis du troupeau qu'est l'Église, à Saint-Pierre. On a fait le quand, on a fait le où, maintenant on va passer au qui. Qui sont les personnages? De qui s'agit-il? Il s'agit de Jésus et de ses disciples. Et d'ailleurs, Jésus va leur poser une question. Il va les interroger. Voilà un certain temps que les disciples suivent Jésus. Voilà, dans ses pérégrinations, voilà, de village en village, ils voient ses miracles, ils écoutent ses enseignements, et alors il leur pose cette question qui prend un peu une tournure d'un examen. Hein. Au dire des gens, qui suis-je? Autrement dit, est-ce que vous avez bien entendu ce qui a été dit dans les villages? Est-ce que vous avez bien vu mes miracles? Est-ce que vous avez bien écouté mes enseignements? Au dire des gens, qui suis-je? Qu'est-ce que vous avez entendu? Qu'est-ce que vous êtes capable de me rapporter? Alors, ils récitent leur leçon. Hein, comme à chaque examen, on récite notre leçon. Pour les uns, Jean le Baptiste. Pour d'autres, Élie. Pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. Jean le Baptiste, on le connaît, c'est celui qui a baptisé Jésus, qui est assimilé au dernier des prophètes. Élie, qui est un prophète également. Jérémie ou l'un des prophètes. Donc on est dans une figure plutôt prophétique. Bon. Il faut bien comprendre qu'à cette époque-là, la région, le peuple d'Israël, est marqué par une effervescence messianique. On attend un Messie, on attend le Sauveur. Et donc ça a donné lieu à la naissance de différents mouvements. Certains nous connaissons, d'autres un peu moins, les pharisiens. Les pharisiens, on voit qu'ils sont toujours un peu en controverse avec Jésus dans les évangiles. Et les sadducéens aussi, il y a quelques controverses qu'on voit dans les évangiles entre Jésus et les sadducéens. Les esséniens, peut-être que ce nom nous dit quelque chose en rapport à Qumran, au manuscrit de la mer morte. Voilà. Et puis, il y a aussi un autre mouvement qui s'appelle les Zélotes. Parmi les apôtres, les 12 apôtres de Jésus, l'un est Zélote. Et donc, on a une attente messianique, une effervescence messianique. Et chaque mouvement va dépeindre un petit peu son Messie, sa figure de Messie. Soit un roi, soit un prophète, soit un prêtre, un grand prêtre. La particularité de ces trois figures, le roi, le prophète et le grand prêtre, c'est que dans l'Ancien Testament, tous ces personnages reçoivent l'onction. Ils sont oints. Ils reçoivent l'onction, comme on a pu le recevoir pour les baptisés. On reçoit cette onction du Saint-Crème. On est oint. Il faut savoir qu'en hébreu, messiar, qui donnera messie en français, messiar, ça veut dire oint. Oint, celui qui a reçu l'onction. Et en fait, toutes ces figures, le roi, le prophète et le grand prêtre, jouissent d'une prophétie messianique. Le prophète, on attend un prophète comme Moïse qui a annoncé en Deutéronome 18:18. Je vous laisserai aller lire ce petit passage. Deutéronome 18:18, on attend un prophète. Au chapitre 7 du deuxième livre de Samuel, ce qu'on appelle l'oracle de Nathan, on attend un roi, non plus un prophète comme pour Moïse, mais un roi successeur de David. Le grand roi David, le grand roi d'Israël, et bien on attend un roi comme lui, un roi, un successeur de David qui est promis par le chapitre 7 du deuxième livre de Samuel. Et puis aussi une figure, une certaine figure de prêtre, d'un grand prêtre. Le prêtre, c'est aussi le serviteur, et on a les figures du serviteur souffrant, notamment dans le livre d'Isaïe. Isaïe au chapitre 42, premier chant du serviteur souffrant, au chapitre 49, au chapitre 50 et au chapitre 52 et 53, on a ces quatre chants du serviteur souffrant, mais qui est aussi le sauveur espéré par Israël et qui est inscrit dans le livre d'Isaïe. Ça, c'était un peu les réponses, un peu le panorama des réponses que l'on pouvait donner à cette question, au dire des gens, qui suis-je? La question que Jésus pose maintenant à ses disciples, et vous, que dites-vous pour vous, qui suis-je? On va la traduire un peu plus littéralement. Et vous, qui dites-vous que je suis? Et vous, ça s'adresse à nous, ça s'adresse à tous ceux qui veulent être disciples de Jésus. Et vous, qui dites-vous que je suis? Vous voyez que cette question, elle porte sur un dire, sur un langage, sur une expression. Il faut dire quelque chose, il faut répondre quelque chose à cette question. Que ce soit une prédication, que ce soit un parler à haute voix, ou que ce soit, voyez, une réponse, un verbe, une parole qui soit intérieure à nous-mêmes. Hein, qui dites-vous? Qui dites-vous? En fait, cette question, elle est doublement théologique. Elle est théologique au sens de l'étymologie du terme théologie, hein, théos logos. Logos, c'est la parole, c'est le verbe, c'est un langage. Théos, c'est Dieu, donc la théologie, c'est un langage sur Dieu, c'est une intelligence de la foi en tant qu'elle est priée, qu'elle est vécue. Donc, il y a quelque chose à dire en théologie. Et aussi, cette question, elle est ordonnée à la formation des disciples. Je vous ai dit que c'était un examen que Jésus leur faisait passer. Et donc, bon, est-ce qu'ils vont bien répondre à cet examen, à cette question? Et donc, on est dans l'ordre de la formation du disciple. Pour qui, en fait, cette question de Jésus n'a rien d'anodine dans les évangiles, elle est plutôt cruciale. Hein, au propre comme au figuré. Crucial, c'est-à-dire ça va nous mener à la croix pour Jésus, et crucial, c'est-à-dire en qui est-ce que j'ai mis ma foi? Ça, c'est la question du disciple. Et en fait, nous savons, nous faisons peut-être cette expérience-là dans notre propre vie, que il ne suffit pas de répondre avec justesse à la question de Jésus. Hein, c'est pas comme un QCM où je coche certaines cases. Non, non, la question, elle est bien plus profonde que ça. Il ne suffit pas de répondre avec justesse à la question de Jésus pour montrer que, finalement, j'ai pénétré dans le mystère que recèle ma réponse, la réponse que je peux donner à Jésus. L'inouï, il y a un inouï de la foi, en fait. Un inouï de la foi qui va quelque part soumettre à l'épreuve notre raison, un peu ce que je pense, ma culture, mon éducation, mes tentations peut-être à réduire un peu le paradoxe de Jésus. Hein, la croix, la résurrection, la passion, la résurrection, il y a un paradoxe. Que Jésus nous sauve sur la croix, il y a un paradoxe de notre foi qu'il ne s'agirait pas de réduire, mais qu'il faut assumer pleinement. Et c'est justement ce que va vivre comme expérience Saint-Pierre. Après avoir dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant », il va essayer, après cette première annonce de la passion, il va essayer de détourner Jésus de sa passion. Voilà. Non, non, ça t'arrivera pas. Et il va plus être la pierre de l'Église, mais il va être nommé Satan par Jésus lui-même. C'est-à-dire une pierre qui fait tomber, une pierre d'achoppement, une occasion de chute. Alors, nous sommes au début de ce parcours Athénée. On peut se poser cette question, au début de ce parcours, que suis-je capable de dire de Dieu, de Jésus, de l'Église, de son enseignement, de ma foi? Qu'est-ce que je suis capable de dire? On peut avoir peut-être cette parole de saint Paul aux Romains, au chapitre 12, verset 2, qui peut nous servir un peu de fil conducteur. Et justement, cette exhortation de saint Paul aux Romains, « Ne prenez pas pour modèle le monde présent, mais transformez-vous en renouvelant votre façon de penser pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est capable de lui plaire, ce qui est parfait. » C'est justement ce souhait et cette prière que nous formulons ensemble, justement, en ce début de parcours Athénée. Alors, vous propose maintenant de prier avec saint Thomas d'Aquin, qui est le docteur commun, qui est celui qui a résumé peut-être le plus notre foi et qui l'a mis le plus en lumière. Alors c'est une prière qu'il avait composée pour prier avant l'étude. Voilà, on prie avec saint Thomas d'Aquin avant cette étude justement, avant chaque cours Athénée, pour justement que l'Esprit Saint nous éclaire et qu'il nous donne sa lumière.
Ensemble.
Créateur ineffable, vous êtes la vraie source de la lumière et de la sagesse. Daignez répandre votre clarté sur l'obscurité de mon intelligence. Chassez de moi les ténèbres du péché et de l'ignorance. Donnez-moi la pénétration pour comprendre, la mémoire pour retenir, la méthode et la facilité pour apprendre, la lucidité pour interpréter, une grâce abondante pour m'exprimer. Aidez le commencement de mon travail. Dirigez-en le progrès. Couronnez-en la fin. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.
Sur ce modèle, soit en vidéo, soit en présentiel, en fonction de l'emploi du temps de l'intervenant, du père Patrick Monnier ou du père Yvan Brien. Alors il me revient de faire l'introduction générale. Oui. C'est bon ? Merci. Pardon. C'était plus agréable. Il me revient de faire une introduction générale de ce parcours Athénée. Alors ce ne sont pas des conférences, ce sont des cours. Et normalement, vous devriez voir le lien, si les enseignants ont bien fait leur travail, se communiquent bien entre eux, et si on les aide à communiquer, normalement, vous devriez voir un lien entre tout ce que vous allez découvrir, apprendre, approfondir tout au long de cette année. Donc, je suis le père Frédéric Fagot, je suis délégué diocésain à l'enseignement catholique du Morbihan et délégué diocésain à la formation humaine et chrétienne du diocèse. Et voilà, Monseigneur Santène nous a... demander à moi et à Hortense de Longvilliers de réfléchir à cet institut de formation pour les laïcs de notre diocèse. Alors, le topo que je vais vous faire ce soir, l'introduction que je vais vous donner, je l'ai intitulé « L'Athénée à l'école de Jésus-Christ, maître et pédagogue ». Bien sûr, pour base, ce que vous avez entendu dans la bouche du père Patrick Monnier. Et je commencerai par cette phrase du psaume 19, « Cheli enaram gloriam Dei », « Les cieux racontent la gloire de Dieu ».« Les cieux racontent la gloire de Dieu » pour les yeux émerveillés de ceux qui ont un cœur qui écoute, et une intelligence qui est ouverte aux signes. Les cieux racontent la gloire de Dieu pour les yeux émerveillés de ceux qui ont un cœur qui écoute et une intelligence ouverte aux signes. Encore faut-il que les yeux voient, que les oreilles entendent et que l'intelligence comprenne. Et je voudrais vous évoquer... Voilà, Vladimir Yankelevitch. Alors, si vous n'arrivez pas à dormir la nuit, c'est la trilogie que je vous conseille. C'est passionnant, mais je n'ai pas le décodeur avec moi, hein, donc il faut plusieurs années, je crois, pour tout comprendre, le je ne sais quoi et le presque rien. Ça fait très chic de dire que vous lisez Jean Kelevitch avec ce titre, mais surtout le sous-titre, la volonté de vouloir. Alors, vous n'avez pas 2 heures pour traiter le sujet, c'est plutôt moi qui vais essayer de le faire, et ce sera approfondi par le frère Innocent dans le cours suivant. Vladimir Yankelevitch est un musicologue et philosophe qui, au seuil de cette trilogie, donc 3 ouvrages, évoque la lueur timide et fugitive, l'instant éclair. Ce PowerPoint vous sera envoyé par mail. À chaque fois, la bibliographie, les citations, voilà, tout cela vous sera envoyé ou imprimé si vous n'avez pas de mail, envoyé par la poste. La lueur timide et fugitive, l'instant éclair, les signes évasifs, c'est sous cette forme que choisissent de se faire connaître les choses les plus importantes de la vie. Et de conclure sa trilogie par cette citation. Pour vouloir, il n'est pas nécessaire d'être un athlète. Pour suivre le parcours Athénée, pas besoin d'être déjà un philosophe et un théologien en herbe, de savoir tout sur tout. Et même si on sait tout sur tout, on a très souvent besoin de revoir ses classiques. Ce parcours Athénée est vraiment ouvert à toutes et à tous. Alors, ce tout ne sera pas simple, mais il est hors de question pour nous de niveler par le bas. Donc, nous avons placé la barre un peu haut. Et c'est aux intervenants aussi d'adapter leur discours pour vous faire comprendre, pour tout faire, pour que vous puissiez accueillir les paroles. Et ensuite, bien sûr, libre à vous d'approfondir de votre côté ce qu'on vous a enseigné. Pour vouloir, il n'est pas nécessaire d'être un athlète. Il ne faut que le vouloir. Mais il faut le vouloir. L'oiseau n'est pas un docteur res-science qui puisse expliquer pour ses confrères le secret du vol. Pendant qu'on discute sur son cas, l'hirondelle, sans autres explications, s'envole devant les docteurs ébahis. Alors ensemble, je vous propose cette année de tenter notre envol avec l'ambition d'Icare, mais sans avoir peur, je pense, de nous brûler les ailes. Tentons donc notre envol, plutôt à la manière du comte de Kerfadec à bord de son ULM dans ce film Chouan. En ce 3e millénaire, je pense que le monde dans lequel nous vivons est parvenu à un seuil historique qui est comparable au 4e et 5e siècle après Jésus-Christ, ce qu'on a appelé l'époque byzantine. Je pense que pratiquement cycliquement, nous sommes en train de vivre ce que nos prédécesseurs, nos ancêtres, ont vécu au 4e et 5e siècle. Ces siècles ont vu l'effondrement de l'Empire romain et l'émergence d'une nouvelle société qui a été créatrice d'une nouvelle culture. Il est donc sans nul doute éclairant de nous demander pourquoi, en ces temps éloignés, pourquoi et comment, au milieu de tant de propositions philosophiques, culturelles, des propositions anciennes et nouvelles, venant d'Orient, venant d'Occident, pourquoi et comment, au milieu de ce monde de païens, c'est la foi chrétienne qui l'a emportée. Si je vais à l'essentiel, en cette époque décisive où le message de l'Évangile avait conquis un monde connu, l'Empire romain a vécu une véritable évolution, voire une révolution, qui, avec la foi chrétienne, a vraiment imposé une autre façon de vivre l'époque, une autre façon de penser les rapports familiaux, une autre façon de penser les rapports sociaux, une autre manière de concevoir la mort, une autre manière de concevoir l'au-delà. Dans la crise de l'Empire romain et la montée d'une nouvelle religiosité, la foi au Christ, au 4e, 5e siècle, a véritablement comblé les aspirations spirituelles insatisfaites. Et je pense que nous vivons exactement cela aujourd'hui. Alors demandons-nous, quelle pédagogie chrétienne, quelle méthode de transmission pour une culture moderne en 2021 à l'exemple de l'Église des premiers siècles. Dans un pays, la France, qui n'est plus un pays chrétien. Dans un pays qui se paganise de plus en plus dans ses rituels. Voyons et approfondissons ce qui s'est passé au 4e, 5e siècle, peut-être pour nous aider à garder confiance et à aller de l'avant. Durant une très longue période qui allait de l'Antiquité au 17e siècle, on souhaitait avant tout véhiculer un idéal de formation humaine. Et l'idéal de formation humaine jusqu'au XVIIe siècle, c'était très simple. Quelques petits principes, deux ou trois maximes enseignées par papa, maman, grand-père et grand-mère, trois directives de discipline, point à la ligne. C'était ça l'idéal de formation humaine. Et ensuite, si on avait les moyens, eh bien, on était éduqué, on avait l'enseignement de monsieur le curé, des religieux, des religieuses, et aussi, dans certaines familles, par un précepteur. Jusqu'au XVIIe siècle, l'idéal de formation humaine, c'était cela. Et cet idéal de formation humaine a été repris de l'Antiquité. Les Grecs ont appelé cet idéal de formation humaine la païdéia. Et s'il y a un mot que je vous demande de retenir de toute la soirée, c'est bien celui-là. Parce que, selon moi, c'est ce qui doit être au cœur de toute transmission, de tout projet éducatif et de tout projet pédagogique. Alors attention, je précise, quand je parle de formateurs, d'éducateurs, d'enseignants, je ne m'adresse pas au monde de l'enseignement et des profs, d'accord ? Nous sommes toutes et tous des enseignants. Nous sommes toutes et tous des transmetteurs. Nous sommes toutes et tous, à certains moments de notre vie, des formateurs. En tant qu'adultes, en tant que parents. Et pour des enseignants qui sont coéducateurs déjà. D'accord ? Mais quand j'emploierai le mot enseignant, parle de transmission, de pédagogie, ne pensez pas que même avec mon étiquette enseignement catholique, je vise certaines personnes en particulier. D'accord ? Même si peut-être parfois je le ferai. Les Grecs appelaient cela la païdéia. Les Latins l'ont appelé l'humanitas. Oui, la païdéia. Éducation, culture, instruction. Donc cet idéal de formation humaine, je vous ai quelques petites maximes, quelques petits principes, etc. Cela vient de la païdéia de l'Antiquité. Donc pour les Grecs, païdéia. Pour les Latins, humanitas, vous voyez. Concept forgé au 1er siècle avant Jésus-Christ par des penseurs romains, on dit par Cicéron, et qui vise à caractériser ce qui fait le propre de l'homme. Donc on ne parle pas de chrétienté encore. Idéal de formation humaine. Il s'agissait donc, jusqu'au XVIIe siècle, de former un esprit pleinement développé, une âme riche en vertu, disons-nous. Un esprit pleinement développé, une âme riche en vertu. Et dès le IVe siècle, eh bien, les chrétiens qui ont grandi dans cet univers avec cette formation, cet idéal de formation humaine, les chrétiens qui étaient de plus en plus nombreux à l'époque byzantine, dans l'Empire romain, avant la chute de l'Empire romain, les chrétiens ont fait de cet idéal de formation humaine, ils en ont fait leur, ils l'ont pris, mais ils l'ont christianisé. On disait à l'époque qu'ils transfiguraient l'idéal de la païdéia. Donc c'est la même païdéia que chez les Grecs, l'humanitas chez les Latins. Ils veulent édifier, construire l'homme intégral. Et si aujourd'hui, il y a cette expression à la mode, la formation intégrale de la personne humaine, ça vient de ce concept de la païdéia, de cet idéal de formation humaine qui est né chez les Grecs. Les chrétiens l'ont christianisé, et ce qui a fait dire à Saint Clément de Rome, qui est le troisième successeur de Saint-Pierre, qui a rédigé une lettre accessible, hein, vous pouvez la lire, on la trouve sur Internet, sauf on le trouve aussi en ouvrage, une lettre aux Corinthiens, et Saint Clément de Rome va utiliser, pour la première fois, l'expression de païdéia dans le Christ. on va mettre en pratique, se nourrir de cette païdéia, de cet idéal de formation humaine, mais avec au cœur le Christ. Et dans ses différentes études, Werner Jaeger, qui est le spécialiste mondial de cette question, je pense que dès le berceau, il s'est intéressé à cette hépatique de la païdéia. Dans toutes ses études, Jaeger montre combien le Christ a remplacé la païdéia des Grecs, petit à petit. Elle n'a pas disparu, mais petit à petit, la païdéia dans le Christ évoquée par saint Clément dans sa lettre aux Corinthiens est devenue le Christ, la pédagogie par le Christ en Dieu. Un petit peu de philosophie, mais je vous en ferai un peu plus la prochaine fois. Pour Platon, qui est le pédagogue de l'univers ? Dieu. C'est Platon qui le dit. Dieu est le pédagogue de l'univers. Pour Origène, le père Thomas Weber, dans son premier ou deuxième cours sur les pères de l'Église, vous parlera d'Origène. Pour Origène, le Christ, c'est un gros mot, hein, j'ai employé plein de gros mots ce soir. Le Christ, c'est le grand didascal. Didascal. Le maître. Le Christ, c'est le maître. C'est le professeur, c'est le maître, c'est le docteur de l'Église primitive, chargé de l'éducation des catéchumènes. Donc les didascales, ce sont les premiers catéchistes dans notre société. Ces hommes qui, petit à petit, vont mettre en pratique, vont créer cette formation intégrale de la personne humaine en évoquant la païdéia dans le Christ. Et petit à petit, les chrétiens vont construire une païdéia chrétienne. Et je cite Werner Jaeger, ces chrétiens qui vont donc construire petit à petit, bâtir une pédagogie nouvelle, un idéal de formation humaine et chrétienne. Et chrétien, ce ne sera pas uniquement, je cite Jaeger, un enseignement des doctrines chrétiennes, voilà, bourrage de crâne, mais la proposition d'une conception du développement de la personnalité humaine à partir de l'exemplarité du Christ. La proposition d'une conception du développement de la personnalité humaine à partir du Christ. Alors pour l'instant, on ne parle pas beaucoup de Dieu. Hein. Les chrétiens essaient petit à petit de christianiser cet idéal de formation humaine. Et il faudra attendre Grégoire de Nice, rien à voir avec la ville, hein. N-Y-2-S-E, dans cet ouvrage, le Christ Pascal. Grégoire de Nice va reprendre une idée ancienne, mais qu'on avait plus ou moins enterrée, de l'assistance divine. Donc il y a l'idéal de formation humaine qui est faite par des hommes, principalement, mais il y a tout de même une assistance divine. Alors, qui est ce divin? Qui sont ces divins? Mais il va reprendre une idée qu'il n'a pas inventée. Il a reprise dans l'Iliade et l'Odyssée d'Homère. Et principalement aussi dans la poésie grecque. Une assistance divine. L'homme est formé par un homme, ou par des hommes, mais il y a quelque part une assistance divine. Et petit à petit, c'est grâce à Grégoire de Nice que l'on va voir se répandre l'idée, déjà grecque, hein, de la grâce divine. Qu'est-ce qu'il y a derrière le mot divin, divine? Mais il va, voilà, utiliser cette grâce divine. Il va insérer ce concept de grâce divine dans la païdéia classique. Pas uniquement un concept humain, un idéal humain, mais quelques principes, quelques maximes, et la grâce de Dieu dans tout ça. Et petit à petit, eh bien, cette païdéia, cet idéal de formation humaine et chrétienne, va devenir la véritable formation des chrétiens. Et cette formation du chrétien va devenir petit à petit le résultat de l'étude de la Bible. Et c'est pour ça qu'on commence chaque cours par un passage de la Bible. Étude de la Bible. et la païdéia du chrétien, c'est l'imitation du Christ. La païdéia du chrétien, c'est l'imitation du Christ. Vous connaissez peut-être cet ouvrage que l'on conseille à déjà toute personne qui peut-être va faire une retraite dans un monastère, mais au moins à tout futur religieux, religieuse ou au séminariste dans les séminaires, l'imitation de Jésus-Christ. C'est peut-être cet ouvrage que l'on conseille pour sa vie d'oraison. Eh bien, sachez que l'auteur, voilà, plusieurs auteurs sont possibles, on ne sait pas exactement qui a écrit, eh bien, l'auteur de l'imitation de Jésus-Christ s'est inspiré de ce que je viens de vous dire depuis le début de mon intervention. La païdéia du chrétien est imitation du Christ. L'auteur s'est inspiré de l'idéal de formation humaine puis chrétienne des Grecs, des Latins, et cette païdéia qui a été petit à petit christianisée jusqu'au XVIIe siècle. La païdéia du chrétien est imitation du Christ. Alors, parler de pédagogie chrétienne, d'idéal de formation humaine et chrétienne, de parler de transmission, c'est peut-être redécouvrir l'audace des pères grecs du IVe siècle qui ont utilisé toutes les ressources de cet idéal de formation humaine cher aux Grecs pour inventer une pédagogie chrétienne. C'est grâce aux pères de l'Église, aux pères de l'Église d'Orient, les Grecs, au IVe siècle, que voilà, une pédagogie chrétienne est arrivée sur le devant de la scène. C'est bien, on a une pédagogie chrétienne, un outil de transmission. Mais comment l'utiliser ? Car vous le savez, la foi n'existe pas sans prendre forme dans des langages, dans des cultures. Je pense qu'on a le super bouquin, la super recette de pédagogie chrétienne, que ça va marcher partout et face à tout public. Non, il faut un effort considérable et on le voit aussi de nos jours. Donc, il faut s'inculturer. Mais cela, ce n'est pas si simple que cela. Rappelons-nous deux exemples. Chez Saint Luc, chapitre 4, 16-24, Jésus qui prêche dans la synagogue de Nazareth, repérez la dernière phrase. Amen, je vous le dis, aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. Nul n'est prophète dans son pays. La même chose, on dit souvent, si vous ne voulez pas avoir de problème dans votre famille, évitez les sujets de politique et de religion à table. On peut avoir de très belles idées, hein. On habite dans le pays de Plouarmel, sauf qu'on essaye de monter des projets ici, ça ne prend pas, et on va aller à 20 km, c'est bizarre, là ça prend. Pourquoi ? Là aussi c'est la grâce divine. Jésus à la synagogue de Nazareth. Un autre exemple, Paul à Athènes, sur l'Agora, à l'Aéropage. Lui qui est parti de Terre Sainte avec son bâton de pèlerin pour transmettre la bonne nouvelle, très bien, avec un objectif en tête, transmettre. La bonne nouvelle, évangéliser. Eh bien, si vous lisez, on n'a pas le temps de tout lire, ça fait deux slides de PowerPoint, mais dans les Actes, chapitre 17, versets 16 et 33, c'est pas simple. Relisez vraiment ce texte de Paul à l'Aréopage d'Athènes. Ah, il a la fougue. Hein, il est heureux d'être sur la place publique pour transmettre cette bonne nouvelle. Mais en face, pas simple. Pas simple. Alors comme Paul à Athènes, comme Saint Justin à Rome, comme Saint Irénée à Lyon, comme Origène à Alexandrie, je crois que nous avons à traduire l'appel évangélique capable de conduire des hommes et des femmes à un grand retour au spirituel. On ne parle que de spirituel, de nouvelle spiritualité. Moi, je suis frappé, notamment dans les écoles, de voir de plus en plus le développement de la méditation transcendantale pleine conscience. Comme si on n'avait pas assez dans la Bible ou dans les textes, etc. Voilà, ces nouvelles religiosités, ces nouvelles spiritualités qui pénètrent petit à petit eh bien, nos réseaux. Il faut être attentif et vigilant. Il y a un grand retour du spirituel. être vigilant, et qui peut aller jusqu'à la conversion de l'intelligence et du cœur. Mais je suis persuadé qu'avec une pédagogie moderne, une pédagogie adaptée, sans niveler par le bas, bien au contraire, par une passion, eh bien on peut transmettre un amour de la culture chrétienne en 2021 dans notre pays, dans notre diocèse, même sur un territoire qui peut être miné, même avec certains qui voudraient que la foi ne soit que dans une sphère privée. C'est cela l'objectif de l'Athénée. Vous donner des outils, vous donner envie d'approfondir, de creuser certaines thématiques pour vous aider, autant que faire se peut, eh bien, à pouvoir répondre, argumenter, développer certains sujets. Moi, par exemple, je le dis à chaque fois, mais dès que... Il m'arrive pratiquement toutes les semaines de devoir répondre à des questions sur le mariage des prêtres et l'ordination des femmes. C'est toujours. Bon, à la fin, on a envie de dire stop, on peut peut-être passer à autre chose, mais il faut quand même essayer de répondre. Et voilà, mais il faut toujours essayer de... Voilà. C'est pas toujours le même public que l'on a en face de soi, et bien il faut aller trouver des petites fenêtres, des petites portes d'entrée et de sortie, voilà, qui sont aussi un discours plutôt ferme et carré, mais voilà, accessible pour que l'autre... même si souvent, en face de vous, il y a des personnes qui n'ont pas tellement envie de changer d'opinion. Mais c'est cela l'objectif de l'Athénée. Notre culture, je crois, a un défi énorme devant elle. C'est la tendance à rejeter le religieux dans la sphère privée, aboutissant parfois, et de plus en plus même, dans certains endroits, à la privatisation de la religion. Alors que je crois que le religieux a vraiment vocation de se traduire dans la vie de la cité. Et la pédagogie chrétienne, cette païdéia dans le Christ, cette païdéia chrétienne, a pour vocation, ça vous pouvez noter cette idée, d'aider l'homme à épanouir son humanité au sein de la modernité. Aider l'homme à épanouir son humanité au sein de la modernité. Et à se forger sur le modèle du Christ. Car le modèle du Christ, chers amis, il est imitable et il est facile. Encore faut-il se donner les moyens. Mais ces moyens ne sont pas très compliqués. Et pour cela, deux petits outils. Mon prochain cadeau de Noël. Ces deux ouvrages rédigés par saint Augustin, le premier qui a été rédigé vers l'an 400 après Jésus-Christ. Le De Catechisandis Rudibus, la première catéchèse, alors ça ne veut pas dire catéchèse pour les nuls, hein. C'est le catéchisme des débutants. Donc cet ouvrage de saint Augustin est le premier manuel de parcours catéchétique. Et c'est passionnant, on n'a rien inventé. Si on a peut-être rajouté maintenant des photos, des images, de la couleur, mais le contenu, c'est excellent, il y a tout dedans. De Catechisandis Rudibus, c'est le premier modèle de catéchèse dans le monde. Et un autre ouvrage de Saint-Augustin que vous voyez derrière moi, La Doctrine Chrétienne, alors ça c'est, voilà, pour, c'est année 2, hein. C'est De Doctrina Christiana, voilà, cet ouvrage contient également des conseils sur la manière de former ses contemporains et des conseils sur la manière d'enseigner, notamment d'enseigner dans les écoles. C'est passionnant. Se former, lire si on le peut les ouvrages que je vous conseille. Il y en a d'autres, mais je vais à l'essentiel pour donner des ouvrages de référence et simples et abordables. Tout ça, c'est en vue d'une évangélisation, de porter, comme saint Paul et d'autres disciples du Christ à l'époque, au 1er siècle, au lendemain de la crucifixion de Jésus, eh bien de porter la bonne nouvelle. Mais qu'est-ce que ça veut dire évangéliser? Eh bien la meilleure définition pour moi, elle est de saint François d'Assise. Saint François d'Assise donne un conseil à l'un des premiers frères qui l'est suivi à la Portioncule à Assise, le bienheureux ange Tancrède. Et François d'Assise, voilà, il s'apprête, hein, ange Tancrède, à partir avec son bâton de sabure et son bâton de pèlerin sur les routes de l'Ombrie, en Italie. Enfin, à l'époque, ce n'était pas l'Italie, mais... Et voilà, tu vas partir, on t'a formé, tu vas partir maintenant sur les routes Voilà ce que c'est, voilà ta mission. As-tu réfléchi à ce que c'est qu'évangéliser les hommes? Évangéliser un homme, vois-tu, c'est lui dire, toi aussi, tu es aimé de Dieu dans le Seigneur Jésus. Et pas seulement le lui dire, mais le penser réellement. Et pas seulement le penser, mais se comporter avec cet homme de telle manière qu'il sente et découvre qu'il y a en lui quelque chose de sauvé, quelque chose de plus grand et de plus noble que ce qu'il pensait. C'est cela, lui annoncer la bonne nouvelle. Pas arriver avec son manuel de recettes fait, ouais, tu me lis la somme théologique et tu vas croire en Dieu. Non, piano piano, hein. Voilà, tu as du prix à mes yeux. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Une relation humaine. Et ensuite, chacun a son chemin de vie, son chemin de foi. Jésus, vous savez, est appelé Rabbi. R-A-B-I. Qu'est-ce que ça veut dire Rabbi? Ça veut dire mon maître. Alors, il est appelé Rabbi par plusieurs personnes qui sont attentives à sa parole. Jésus, il est maître. Comment? Ben, par son enseignement. Son enseignement dans les synagogues. Par sa prédication. Régulièrement, sa prédication en parabole. Sa prédication aussi, sa transmission, sa pédagogie, par des gestes. Il prêche aussi bien dans les villes que dans les villages de Galilée, de Samarie et de Judée. Et je pense que les Écritures, la théologie et l'histoire de l'Église nous montrent que si le Christ est un enseignant, que si le Christ est un éducateur par excellence, je veux dire un enseignant dans le sens de la révélation de la vraie connaissance, eh bien je pense que le Christ est beaucoup plus que cela. Je pense que le Christ est un éducateur des âmes. C'est le Christ qui nous fait sortir, ex ducere, à éducation, sortir de, ex ducere, c'est le Christ qui nous fait sortir des ténèbres, qui nous fait sortir de l'ignorance, qui nous fait sortir du péché. Et c'est ça un éducateur. Faire sortir quelqu'un de son ignorance. Aujourd'hui, on a l'impression que dire que quelqu'un est un ignorant, c'est un gros mot. C'est un ignorant, espèce d'ignorant. Non, non. Moi aussi, je suis ignorant. J'ignore plein de choses. Et donc, j'ai besoin d'éducateurs qui vont me faire sortir, qui vont m'aider à sortir de mon ignorance de certains sujets, de certains domaines. Jésus est Rabbi, mon maître. Mais Jésus, éducateur des âmes, est maître de sagesse. Et on trouve plusieurs fois dans le Nouveau Testament des passages qui évoquent Jésus comme maître de sagesse. Je vous donne Marc 6, 2. Marc chapitre 6, verset 2. Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée, si bien que des miracles sortent de ses mains? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Marc 6, 2. Luc 2, 40. Dès son plus jeune âge, Jésus se fortifiait, étant rempli de sagesse. Dès son plus jeune âge. Jésus, maître, Jésus, rabbi, Jésus, maître de sagesse, eh bien, se propose d'enseigner à indiquer les chemins de la vie authentique. Alors partons de cela. Jésus veut indiquer les chemins de la vie authentique. Comment? Quelle est la méthode pédagogique? Quelle est la méthode éducative de Jésus de Nazareth? C'est très simple. Être témoin et être enseignant. Donc dans la méthode être témoin et enseignant. Dans la méthode de transmission de Jésus, je crois que nous pouvons observer deux ordres de fait. Celui du modèle vivant, et le modèle vivant c'est le témoin, et celui du vrai guide, l'enseignant. Modèle vivant, témoin, le vrai guide c'est l'enseignant. Et je pense qu'il y a un verbe vraiment évangélique qu'il convient de remettre à l'honneur dans notre société, dans notre culture, c'est la transmission. Transmettre, mais aussi enseigner. On n'aime pas ce verbe, ça fait un peu moralisateur. Je sais ce qui est bon pour moi, je sais. Donc qu'est-ce que tu as à m'enseigner ? Même des jeunes disent ça. Hein. Enseigner, transmettre. Et dans le concept évangélique, eh bien, l'enseignement de Jésus, la méthode d'enseignement de Jésus, la méthode de transmission de Jésus implique l'action et la parole, les gestes et la parole, le signe et le message. Les gestes et la parole, l'action et la parole, le signe et le message. Former, enseigner, transmettre, c'est, je crois, fermement laisser des signes sensibles à travers la vie. Laisser des signes, mais des signes riches, des signes passionnants et des signes durables et indélébiles. C'est ce que fait, selon moi, le vrai éducateur. Laisser une marque significative qui dure parfois toute une vie. Rappelez-vous vos éducateurs, vos formateurs, pas uniquement à l'école, mais même des personnes que vous avez rencontrées. C'est pas, voilà, dans l'enseignement notamment, ce n'est pas toujours les profs qui étaient les plus copains que l'on a retenus comme des exemples. Parfois même des enseignants, je crois pour moi, hein, qui étaient parfois durs, très durs, mais peut-être justes. Et avec du recul, nous en souvenons. Ils ont laissé en nous une marque riche, passionnante, durable, indélébile. Et s'il y a une marque passionnante, durable, indélébile, un signum par excellence, c'est Jésus. Jésus a toujours été, il est toujours un signum, un signe concret, et pas seulement une parole. Une parole peut s'envoler, mais elle s'envole parfois. Mais il est concret, il est présent. Et là aussi, il y a une méthode pédagogique version Jésus. Hein. C'est d'abord former. On n'a pas vu Pierre et les autres partir tout de suite à Jérusalem pour agir. Mais agir pourquoi ? Alors, on n'est pas d'accord avec le fait que les Romains augmentent les impôts ? Très bien, on va aller dans la rue. Et après ? Non. Avant d'agir, avant d'aller dans la rue vous plaindre, formez-vous. Et ensuite, je vous enverrai. Vous pourrez aller porter la bonne nouvelle, débattre, argumenter sur les places publiques. Mais d'abord, formez-vous. Face notamment à celles et ceux que vous aurez en face de vous. Jésus enseigne, c'est l'enseignant par excellence. Il enseigne par des paroles, mais il enseigne surtout par sa vie. Et ça, c'est très important. Et je vous renvoie au premier verset du premier chapitre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres 1:1. Jésus a fait et enseigné. Il a fait, il transmet, il enseigne, et ensuite il envoie en mission les disciples. Donc c'est avant tout un art éducatif. Et l'art éducatif par excellence, c'est le Jésus le signe, c'est sa vie et sa parole. Ce n'est pas de grande théorie. Ah, tu devrais faire ci. Hein. Si j'étais toi, je ferais ça. C'est un sport national aussi chez nous, de donner des conseils sans les mettre en pratique soi-même. Voilà le modèle de Jésus. Et ce modèle de Jésus, chers amis, il est imitable. Et donc, le grand défi éducatif de Jésus de Nazareth, c'est celui de devenir un signe visible, un signe intuitif, mais surtout un signe vivant. Et sa méthode pédagogique, elle est narrative. Ouvrez la Bible, hein, vous avez des histoires à toutes les pages. La méthode pédagogique de Jésus, elle est narrative, elle est accessible. elle est concrète. Et Dieu sait qu'elle est imitable. Et de cette méthode de Jésus, je pense que nous pouvons tirer l'enseignement de la vie. Alors, je ne vais pas vous lire hein, le Christ enseignant. C'est déjà une vingtaine de pages qui réfère cette thématique du Christ enseignant dans le Nouveau Testament. Mais voilà, il n'y a pas, je crois, une page sans que l'on parle de Jésus qui enseigne, Jésus qui transmet. Donc, ce qui est important, c'est de voir que Jésus rend explicite, avec sa propre exemplarité, toutes les richesses qu'il veut communiquer. Il rend explicite tout ce qu'il veut transmettre. Il expérimente d'abord ce qu'il va enseigner, il vit lui-même ce qu'il va transmettre. Il expérimente d'abord, il vit ce qu'il va enseigner aux autres. Et donc le formateur, celle ou celui qui enseigne, va devenir cohérent et donc crédible lorsque ce qu'il veut transmettre se voit dans sa propre vie. Être en cohérence. Et donc, toute occasion est bonne pour transmettre et se former. Jésus a toujours visé cet art éducatif. Jésus a toujours visé cet art de la transmission et je pense, je dirais même avec d'excellents résultats, j'aurais voulu voir son dossier scolaire. Il donne l'exemple, il incarne lui-même ce qu'il enseigne, il met en pratique ce qu'il demande aux autres. Et donc en voyant Jésus enseigner, en regardant Jésus transmettre, on voit que sa méthode ne consiste pas à instruire ou corriger, mais même s'il le fait parfois, mais à vivre de façon radicale sa propre vie en cohérence avec ce que l'on demande aux autres. Avoir une discipline de vie, être en cohérence entre sa vie et ce que l'on transmet, ce que l'on demande à autrui. Et pourquoi ça marche, la méthode de Jésus de Nazareth ? Parce que il part de la réalité à chaque fois. Il part de la réalité de la vie quotidienne des hommes et des femmes qu'il rencontre. Jésus le maître, Jésus l'enseignant, prête toujours attention à la vie d'autrui, à ce qui constitue leur état d'esprit. Il vit au milieu du peuple. Il vit au milieu des artisans, des charpentiers, des menuisiers comme lui. Au milieu des ouvriers, des vignerons, des paysans, des pêcheurs des bords du lac de Tibériade. Il fréquente quotidiennement des hommes et des femmes qui parlent des moissons, qui parlent des moutons, des fruits et des légumes, du marché, des filets, des bateaux, des poissons. Il fréquente jour après jour des hommes et des femmes qui admirent les couchers de soleil, qui écoutent le chant de la pluie et le chant du vent. Et Jésus, depuis le début, sait que pour être compris du commun des mortels, il faut utiliser des mots qui parlent, et pas du verbiage qui ne sert à rien. Utiliser des mots qui parlent. Utiliser des paroles qui désignent des choses que les hommes et les femmes que l'on côtoie au quotidien font tous les jours à la sueur de leur front. Il faut que dans la transmission, ce que l'on souhaite transmettre soit incarné. Si possible. Mais même, vous le savez bien, lorsque Jésus utilise des images, il en utilise énormément dans la Bible. Il ne les invente pas. Il utilise ces images à partir de l'expérience des uns et des autres, à partir des joies, des peines, des angoisses, des problèmes, des difficultés de la vie. Rappelez-vous, Luc 9, 58, Jésus lui déclara, Luc 9, 58. Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids, c'est pas concret ça, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer sa tête. Il vit avec les gens, c'est le quotidien, c'est le vécu, c'est le concret, c'est l'incarné qui est transmis. Et les évangiles confirment cette méthode pédagogique, cette méthode éducative de Jésus-Christ, que je pourrais résumer ainsi: la centralité du maître, qui annonce avec autorité un savoir connu de lui. Et c'est une méthode pédagogique qui a une finalité. C'est pour moi une pédagogie qui n'a pas de finalité, c'est creux. La formation. Il forme, il transmet un savoir précis, connu de lui, à ses disciples, qui a une visée pratique. Il sait qu'il forme ses disciples parce qu'ensuite il va les envoyer en mission, un projet, une finalité, un objectif. Donc il les forme, ses disciples, il va les envoyer deux par deux, et il va ensuite leur commander aller dans le monde entier proclamer l'évangile à toute la création. Voilà, déjà vous avez quitté vos filets de pêche à Capharnaüm, déjà vous avez quitté votre vie, vous m'avez suivi en laissant sur place tous vos biens, parfois vos familles. En plus, maintenant, il va nous demander de partir à l'autre bout du monde pour porter la bonne nouvelle. Il faut avoir un petit peu bon cré, il y a la grâce divine, heureusement, la présence de Dieu en nous. Mais voilà, il aura déjà donné des munitions pour affronter déjà les premières difficultés. Alors, se former, c'est bien. Mais sachez que le premier destinataire de la formation, c'est moi. Enfin, c'est vous. Celui qui se forme pour lui d'abord. Pourquoi d'abord? J'ai du temps, donc je vais me former. Oui, mais c'est juste pour garder ça pour soi. Très bien. Non, se former pour transmettre ce que l'on a appris, ce qui nous a intéressé aux autres, ça, c'est l'objectif de la formation. Recevoir un contenu, recevoir une formation, certes pour moi, parce que ça va m'aider à avancer dans ma réflexion, dans ma construction même de ma personne, pour ensuite être encore plus armé, plus fort peut-être, pour aller vers les autres. La formation pour soi, et pour après la transmettre aux autres. Je pense que nous devons, vous et moi, qui que nous soyons, toujours penser dans notre processus de formation à nos propres limites. Ne pas avoir peur de dire: là, je ne sais pas. Vraiment, là, je sèche, j'ai peut-être besoin. Voilà, on me pose une question. Je ne vais pas essayer de m'en sortir par une pirouette, on le fait parfois. Mais voilà, ne pas avoir honte de dire: ben, je ne sais pas. Il n'y a pas de... C'est pas un déshonneur de dire: je ne sais pas. Dire, ben, tu vois, ta question est intéressante. Voilà, je n'ai pas les arguments, je n'ai pas de réponse. Par contre, je vais me renseigner. Et voilà, je reviendrai vers toi plus tard. Ne pas avoir peur de ses propres limites. Ne pas avoir peur de dire: oui, j'ai besoin de me perfectionner. Bien sûr, de faire attention à nos propres défauts, à les combler. Petit à petit aussi, peut-être, à nous convertir chaque jour que Dieu fait. Alors voilà, regardons-nous dans la glace, d'abord, pour savoir ce dont nous avons besoin. Et alors, je crois que nous pourrons nous inquiéter des autres et de faire grandir notre prochain. Et je pense que si justement nous avons bien mâché, accepter nos faiblesses, mais accepter de nous former justement pour combler les lacunes que nous avons toutes et tous, eh bien nous serons aptes, plus aptes au moins, à transmettre cet enseignement, quand on parle de l'enseignement de Jésus, ce secret précieux. Mais si on accepte ses limites, ses erreurs, ses difficultés, et si ensuite on prend le taureau par les cornes et on se dit... voilà, j'ai besoin de ça, j'ai besoin d'approfondir, j'ai besoin de me former. Eh bien, on transmettra, tel un virus, ce que nous avons reçu. Il y aura une véritable contagion. Une véritable contagion. Donc, il faut avant tout faire attention à notre manière d'écouter. Non, non, mais je vois bien ce que tu veux dire. Ah non, je sais ce que tu veux dire, voilà, j'ai la réponse. Non, on écoute jusqu'à la fin de la question. Prendre le temps d'écouter. Faire attention à notre manière de recevoir. Une parole, une formation. et faire attention à notre façon de transmettre. Écouter, mettre en pratique, témoigner, je crois que c'est la diversité de toute vie de foi. Écouter, mettre en pratique, témoigner, prier, méditer, après vous pouvez rajouter des verbes. Et je crois que si aujourd'hui comme hier, hein, si beaucoup de nos discours, de nos sermons le dimanche à l'église, de nos enseignements n'atteignent pas le cœur de notre auditoire et restent peut-être inefficaces et incompris, cela tient peut-être que nos discours sont parfois préfabriqués, qu'ils sont symétriques, systématiques, abstraits, peut-être désincarnés et loin des expériences quotidiennes de notre auditoire. Et c'est peut-être ce qui est en train de se produire en ce moment. Parfois, nous récitons des traités et nous ne dialoguons pas avec la vie réelle de la personne avec laquelle nous sommes en train de travailler. Nous récitons toujours le discours que nous connaissons, nos arguments. Oui, mais est-ce que nous tenons compte à la personnalité de la personne qui est devant nous? Les grands enseignements de Jésus, quand je dis que Jésus est imitable, les grands enseignements de Jésus ont toujours un lien avec la situation et l'état d'esprit de l'auditeur. Toujours, toujours. Pourquoi? Parce que Dieu a pour projet de former et d'éduquer son peuple. Et pour toutes celles et ceux qui recherchent une relation de formative ou éducative avec Jésus, il y a une question, je pense, qui leur est posée à ces personnes-là. C'est: que cherchez-vous? Pour vous, qui dites-vous que je suis? Mais ça, c'est avec Père Patrick. Mais que cherchez-vous? Eh bien, je crois que c'est la question que Jésus adresse à quiconque souhaite établir une relation avec vous, avec lui. Que cherchez-vous? Tu veux rentrer en relation avec moi, mais qu'est-ce que tu cherches? Peut-être l'un des objectifs, c'est d'être disciple. Être disciple missionnaire. Mais qu'est-ce que ça veut dire, être disciple? Eh bien, être disciple, c'est se mettre à la suite du Christ. Se mettre à la suite du Christ, se laisser former et se laisser enseigner par lui. Se laisser former, enseigner par Jésus. Et vous le voyez bien, hein, à l'école de Jésus, avec sa méthode pédagogique, sa méthode éducative, eh bien, se former, ce n'est pas uniquement une histoire de transfert de connaissances, de savoir et de savoir-faire, non. Se former, avant tout, selon moi, c'est vivre une expérience. Et je suis persuadé que l'on ne peut pas se contenter des connaissances apprises quand on était petit. Non, mais j'ai fait ça quand j'étais petit, j'étais au catéchisme, non, je sais, et puis après j'ai fait des études, non, non, je sais. Et si la foi reste toujours la même, on n'a jamais fini, je cite, vous pouvez prendre cette expression, de comprendre ce que l'on croit et de croire ce que l'on comprend. Si la foi reste toujours la même, on n'a jamais fini de comprendre ce que l'on croit et de croire ce que l'on comprend. Et il faut aussi, pour celles et ceux qui ont à le faire ou qui souhaitent le faire, il faut apprendre à parler de sa foi. Même certains voudraient qu'on n'en parle qu'à la maison. Il faut apprendre à parler de sa foi. Pourquoi? Eh bien pour en témoigner, mais aussi pour la nourrir. Non, mais je sais, hein, je suis allé au catéchisme pour préparer ma première communion. Je sais. Non. Et pourquoi je dis ça? Parce que des questions radicalement nouvelles se posent, notamment sur les questions d'éthique, sur les questions de la défense de la vie, sur la question notamment de la fin de vie, de l'euthanasie. Non, non, moi je suis contre. Alors moi je suis pour. Oui, ok, très bien. Blanc, noir. Mais allons nous former. ce sont des connexions très complexes. Et donc je crois que la répétition de formules conçues dans une culture ancienne, en reprenant tout ce qu'on a appris il y a 20-30 ans, eh bien je ne crois pas que ça suffise pour rendre compte de l'Évangile dans sa nouveauté permanente. Parce que même si la foi ne change pas, les textes sont là, mais voilà, il y a une évolution sociétale, il faut voilà, être usé d'ingéniosité, voilà, sans avoir une encyclopédie universelle à notre disposition, mais voilà, faire attention, je vous disais, à écouter la personne, à notre manière de concevoir nos arguments, à notre façon de transmettre. Et heureusement, eh bien, nous avons Saint Jean-Paul II. Saint Jean-Paul II, qui venait en France en 1996, à Saint-Laurent-sur-Sèvre, à Sainte-Anne-d'Auray, à Tours et à Reims, pour l'anniversaire du baptême de Clovis. Donc c'est vrai que l'Évangile est présent dans une société en nouveauté permanente. Et Jean-Paul II dit, l'Église est toujours une Église du temps présent. Elle ne regarde pas son héritage comme le trésor d'un passé révolu, mais comme une puissante inspiration, et là je trouve l'expression géniale, pour avancer dans le pèlerinage de la foi sur des chemins toujours nouveaux. Oui, les chemins sont toujours nouveaux, mais n'ayons pas peur d'avancer dans le pèlerinage de la foi. Nous sommes en marche, nous sommes en chemin, toujours vers la sainteté. Renouvellement permanent, mais ce n'est pas uniquement l'intelligence qui est concernée par ce renouvellement permanent. C'est tout l'être chrétien qui est concerné par ce renouvellement permanent. C'est tout notre être qui est concerné, tout notre être dans la diversité des dimensions. S'approprier le contenu d'une formation, s'approprier le contenu de la foi. Comment ? Eh bien, en essayant de lire, d'étudier la parole de Dieu, en essayant d'étudier la théologie, ce que vous allez faire cette année, l'histoire de l'Église, les sacrements, etc. Rentrer dans une dynamique de formation. Et cette dynamique de formation, du moins dans le cadre de cet institut athénée, permet, nous l'espérons, va permettre d'apprendre à parler de sa foi et donc de la sorte de la nourrir. Vous savez, un amour qui ne se parle pas dépérit. Eh bien, je suis persuadé qu'une foi qui ne s'exprime pas s'anémie. Une foi qui ne s'exprime pas s'anémie. Et la meilleure définition de l'importance de se former, il y a plein d'exemples, mais je n'en retiendrai qu'un, c'est l'Épître aux Galates, Galates chapitre 4, verset 19, Saint Paul qui explique ceci, je vous dicte la phrase, la raison d'être, Galates 4, 19, la raison d'être de la formation est d'aboutir à ce que le Christ soit formé en chaque chrétien. La païdéia dans le Christ. La raison d'être de la formation est d'aboutir à ce que le Christ soit formé en chaque chrétien. Fermez les guillemets. Un autre gros mot, l'Athénée va vous faire rentrer dans une démarche apologétique. L'Athénée va tenter de remettre sur le devant de la scène ce gros mot qui a disparu de la formation des séminaristes, de la formation des religieuses, des religieux, pas partout, mais quand même, de manière très importante, l'apologétique. C'est la démarche de l'Athénée. Et le meilleur exemple pour parler d'apologétique, c'est la première épître de Pierre, chapitre 3, versets 14 à 16. Je vous ai mis ce petit dessin humoristique, je fais le lien avec tout à l'heure les oiseaux de Jean Kelevitch et l'hirondelle qui s'envole. Vous voyez, il y a l'équipe paroissiale autour du curé qui est réunie depuis des heures, là, à chercher des idées, il faudrait qu'on trouve de nouvelles façons d'annoncer l'évangile au monde d'aujourd'hui. Il y a la petite hirondelle, et si on essayait de l'annoncer avec le sourire. Bon. Première épître de Pierre, chapitre 3, verset 15. Et la phrase que je retiendrai, qui a été représentée par, régulièrement dans des catéchèses par Jean-Paul II et Benoît XVI, c'est la troisième ligne. Être toujours prêt à la défense contre quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Rendre compte. C'est ça l'apologétique. Rendre compte. Défendre les raisons de notre foi. Défendre les raisons de l'espérance. Rendre compte. Être toujours prêt à rendre compte de l'espérance qui est en nous, qui est en vous. Alors Saint-Pierre a rédigé cette lettre, cette épître, dans un contexte particulier. Il s'adresse à des chrétiens qui sont dans le désarroi, souvent soumis à l'incompréhension, à la moquerie, à l'ironie, mais à la moquerie. Attends, tu te dis que tu crois en un Dieu, là, tout-puissant, qui est mort sur une croix, mais on rigole. Voilà, sur les places publiques, on se moque. Donc on a beau avoir des Saint-Paul et Saint-Pierre qui arrivent sur les places publiques, mais en face, ou d'autres, ensuite d'autres disciples, et on le voit encore aujourd'hui, et qu'en face des gens... Si vous allez manifester, vous avez en face de vous parfois des gens qui sont uniquement dans la singerie, dans la moquerie, espèce de catholique, espèce de catho, bande de fascistes, etc. Voilà. Les mots ont changé, mais les réalités, les relations humaines, voilà, peut-être moins. Et encore, à l'époque où Saint-Pierre rédige cette lettre, on n'est pas encore dans la période des persécutions chrétiennes sanglantes à la Néron. Hein. Et ce texte, c'est une homélie catéchétique. Une homélie catéchétique que Saint-Pierre a rédigée à la veille de Pâques, à l'attention des hommes et des femmes qui avaient reçu le baptême, et à celles et ceux qui allaient le recevoir. L'apologétique, donc se tenir prêt à témoigner, rendre compte de sa foi, rendre compte de son espérance. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré des gens qui disent « mais c'est bizarre tout le monde a le moral dans les chaussettes et pourtant toi tu souris. Mais tu as la foi, toi tu as de la chance, comment tu fais? C'est quoi ta recette? » Alors c'est parce qu'on a le sourire à la foi qu'on n'a pas le moral dans les chaussettes et qu'on se demande où on va. Hein. Ça c'est clair. Mais voilà, il y a un petit quelque chose, c'est pas des étincelles dans les yeux qui parfois transparaissent. C'est peut-être ça aussi la transmission, la pédagogie et l'enseignement. Pas de parole, mais voilà, quelque chose qui dit de la foi, du christianisme, de notre relation, notre cœur à cœur avec Dieu, par nos gestes, par notre attitude. Se tenir prêt à témoigner de sa foi. Donc rendre compte, défendre, démontrer, expliquer, témoigner. Et là, je vais, si vous le souhaitez, pour ceux qui le souhaitent, hein, je vais vous dicter la définition de l'apologétique chrétienne. C'est la partie de la théologie qui a pour but d'analyser méthodiquement tout ce qui touche à la foi chrétienne. L'apologétique chrétienne est la partie de la théologie qui a pour but d'analyser méthodiquement tout ce qui touche à la crédibilité de la foi chrétienne, de manière à proposer les arguments, la crédibilité de la foi chrétienne, de façon à proposer les arguments qui prouvent qu'il est raisonnable de croire à la révélation divine, qui touche à la crédibilité de la foi chrétienne, de façon à proposer les arguments qui prouvent qu'il est raisonnable de croire à la révélation divine. Donc c'est le fondement de la foi chrétienne. C'est ça l'apologétique. Et c'est la mission première de ce programme, cette aventure de formation qu'est l'Athénée. l'apologétique. Vous donnez des billes, vous donnez des armes pour vous aider à rendre compte de la foi, de l'espérance, même de votre joie. Alors, quelques petits conseils bibliographiques, hein, je ne manque pas de les lire pour la prochaine fois, mais ce sont les principales œuvres apologétiques de la tradition de l'Église. Le plus ancien, c'est Tertullien, avec son célèbre ouvrage apologétique, qui a été écrit vers 197 après Jésus-Christ. Le deuxième traité d'apologétique, c'est d'Origène, donc on parlera d'Origène dans un des cours, c'est contre Cels, donc là c'est 248 après Jésus-Christ. Et donc cet ouvrage contre Cels vise à réfuter un autre ouvrage qui a été rédigé par un philosophe païen, donc c'est Origène qui écrit contre Cels, et il écrit ce bouquin pour dénoncer les prises de position de Cels qui critique le christianisme. Donc, Origène critique Cels qui a critiqué les chrétiens. Plus connu, la cité de Dieu de saint Augustin, De Civitate Dei en vers. Donc, saint Augustin répond aux autorités romaines qui accusent les chrétiens d'être la cause de tous les maux de la société. Vous avez ensuite eh bien, le Blaise Pascal avec les pensées, hein, c'est un ouvrage, les pensées de Pascal, c'est un ouvrage d'apologétique, 17e siècle. Je vous ai mis aussi la revue Communio, l'apologétique, un numéro spécial passionnant. On trouve, hein, on trouve même des articles de cette revue, de ce numéro au moins sur Internet. Et bien sûr, à l'époque contemporaine, je pourrais en citer des centaines, Henri de Lubac, Romano Guardini, Karl Rahner, von Balthasar et Joseph Ratzinger. Alors, on me demande, oui, mais est-ce que vous auriez un ouvrage d'apologétique à nous conseiller de rédiger par Ratzinger? Ben non. Parce que ce sont tous les ouvrages de Joseph Ratzinger sont des traités d'apologétique. Toutes ses encycliques, en tant que Benoît XVI, sont des traités d'apologétique. Ses catéchèses du mercredi matin, ses textes, ses sermons, tout est apologétique. D'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes bien sûr, vous êtes plongé dans des textes de Jean-Paul II, des textes du pape Benoît XVI, du pape François. Voilà, on dit, oh, mais Ratzinger, c'est hyper compliqué, etc. Essayez de relire des homélies, des catéchèses de Jean-Paul II, il faut quand même avoir un certain décodeur. Ça ne veut pas dire que Ratzinger est facile à appréhender, mais au moins, c'est un professeur. Donc, dans l'introduction, vous avez Grantingre dans le bouquin, ou dans le texte, dans mon homélie, dans ma catéchèse, en premier, je vais dire ça, en deuxième, on sait. C'est lumineux. Ça veut dire que les autres ne sont pas lumineux. Au moins sur le plan de l'argumentation, de rendre compte de la foi et l'espérance en lien avec l'apologétique, c'est au 21e siècle, c'est le pape Benoît XVI qui est au cœur de cette thématique. Alors on va parler d'apologétique jusqu'au Concile Vatican II. Et ce gros mot va disparaître, plus ou moins. Et va être remplacé par une thématique que l'on enseigne dans les séminaires, c'est plus à la mode, la théologie fondamentale. Alors ça fait bien, hein, ça dans vos dîners, dans vos rencontres, vous allez pouvoir, enfin, les dîners virtuels, vous allez pouvoir étaler votre science. Voilà, l'apologétique a été remplacée par la théologie fondamentale au lendemain du Concile Vatican II. Voici une nouvelle discipline, ça ne veut pas dire que l'apologétique, l'idée d'apologétique n'est plus présente. Mais on va parler de théologie fondamentale face à de nouvelles problématiques qui arrivent sur le devant de la scène au XXe siècle. Je parle du matérialisme, de l'athéisme de masse et des nouvelles religiosités type New Age, méditation pleine conscience, méditation transcendantale qui avait déjà, vous savez, les années 70, hein, pas besoin d'aller à Woodstock, il y en avait un peu partout. Et c'est face à cela qu'on va développer au sein de l'Église cette matière, cette discipline scientifique. La théologie fondamentale, moi au séminaire, à l'Université Pontificale à Rome, j'ai eu un cours pendant une année de théologie fondamentale, entre guillemets, apologétique. Alors, vous allez aussi, au cours de ce parcours, étudier la théologie. Voilà ce petit dessin. Hein. Pas trop galère, les cours de théologie en distanciel. Non, car Dieu est partout en présentiel. Bien vu. théologie, Theos Logos, hein, je reprends aussi ce qu'a dit le père Patrick tout à l'heure, l'étude sur Dieu, donc c'est la discipline qui traite essentiellement du Dieu de la foi connu dans sa révélation. Je répète, et ensuite ce sont les autres profs qui feront l'explication. Chacun son boulot. Discipline qui traite essentiellement du Dieu de la foi connu dans sa révélation. C'est comprendre, peut-être de manière plus simple, c'est comprendre Dieu tel qu'il nous est révélé dans la Bible. Comprendre Dieu tel qu'il est révélé dans la Bible. Mais je suis certain qu'aucune théologie ne suffira jamais à expliquer entièrement Dieu et ses voies, car nous le savons, Dieu est éternellement et infiniment plus grand que nous. Donc toute tentative visant à décrire Dieu est vouée à l'échec. C'est pas moi qui le dis, c'est l'Épître aux Romains 11, 33-36. Vous cherchez à expliquer Dieu ? Quelle profondeur dans la richesse, la sagesse et la connaissance de Dieu. Ses décisions sont insondables, ses chemins sont impénétrables. C'est du boulot, hein. Qui a connu la pensée du Seigneur ? Qui a été son conseiller ? Vous savez quelque chose ? Qui lui a donné en premier ? Et qui mériterait de recevoir en retour ? Car tout est de lui, et par lui et pour lui. À lui la gloire pour l'éternité. Amen. Point final. C'est-à-dire, passé. Et ça peut paraître complexe. On dit, oh là là, on va faire la théologie, on a entendu ça avec Madame de Longvilliers. Ah non, mais ça va être compliqué. Il y a la théologie, on va pouvoir suivre. Oui, il y aura la théologie, et oui, vous allez pouvoir suivre. Et justement, certaines personnes évitent de pousser la porte de la théologie, parce que parfois même elles y voient une source de division. Mais je pense qu'une théologie bien construite et bien comprise, au contraire, est un sacré facteur d'unité. Mais une théologie correcte, une théologie biblique, ça c'est une bonne chose. Une théologie qui n'est pas fondée sur la Bible sera bancale. Pourquoi ? Parce que cette théologie va nous enseigner la parole de Dieu. Et c'est essentiel. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est dans la deuxième épître à Timothée. Toute l'écriture est inspirée de Dieu. Elle est utile pour enseigner, elle est utile pour dénoncer le mal, elle est utile pour redresser, elle est utile pour éduquer dans la justice. Grâce à l'écriture, l'homme de Dieu sera accompli. Vous serez accompli. Vous serez équipé pour faire toutes sortes de bien. Ça vaut le coup hein, pour 2021. Donc, étudier la théologie revient donc à approfondir la parole de Dieu. Cette étude de la théologie va nous permettre, va vous permettre de mieux connaître Dieu. Et je crois que tous les chrétiens devraient se passionner pour la théologie. Pourquoi ? Parce que c'est l'étude intense, c'est l'étude personnelle de Dieu, afin de le connaître. Plus si affinité pour l'aimer, plus si affinité pour lui obéir, et obéir à celui qui nous appelle au bonheur éternel. D'où l'importance d'une sérieuse formation théologique qui s'impose aujourd'hui. Une solide formation théologique ne serait solide qu'après une solide formation philosophique. Et d'ailleurs, là aussi, on va. Ouais, je ne vous annonce pas tout le menu. Hein. Vous sentez bien dans quelle galère je me suis. Non. Piano piano, là encore. On va commencer au diable d'Athénée aussi avec deux interventions, philosophie de la nature et philosophie de l'homme, parce qu'il est essentiel d'appréhender ces deux matières, ces concepts, pour ensuite rentrer dans des questionnements plus théologiques et pour être capable de tout comprendre ce que Mgr Centaine vous transmettra en juin 2021, si Dieu veut, mais il le voudra. Alors, vous connaissez le programme, enfin, une partie du menu, vous le découvrirez à chaque fois. Donc, la prochaine fois, philosophie de la nature. La prochaine fois, Hortense, c'est
janvier 17h.
Oui, le 30.
Si il n'y a pas de
modification. Voilà, excusez. Voilà.
S'il n'y a plus de couvre-feu, on reprendra le soir.
Voilà. Notre souhait, c'est de poursuivre l'aventure, bien sûr. Donc, on vous tiendra au courant régulièrement. Mais voilà, c'est comme à l'école, hein, ou à l'université. Si vous avez séché le cours, ben voilà, peut-être. On ne va pas vous transmettre à chaque fois tous les cours. L'idée aussi, c'est voilà, qu'ensuite, peut-être vous connaissez certains, peut-être pas, eh bien, voilà, d'échanger les cours. Donc, vous avez dit quoi, le 6 février ?
Non, 30 janvier.
Il y a Pontivy, vous savez.
C'est et pareil.
À Pontivy,
c'est 30 aussi. C'est 30 aussi.
Sauf si on nous donne l'autorisation.
À 14h.
14h.
Et à Val, c'est toujours le jeudi, là, pour le coup.
Mais à 17h30.
À 17h30 plutôt que
17h. On fait ce qu'on peut, hein. C'est pas de notre faute. Moi, je peux vous assurer, si je pouvais faire le soir
de
à 20h, je ferais.
Je vous envoie des mails. Cette semaine, vous devez tous recevoir un mail. Si vous ne le recevez pas, vous m'écrivez à formation@diocese-du6val.fr.
Voilà, c'est sûr là.
Parce que quelquefois, j'envoie des mails. Trois fois, j'ai envoyé des mails. Les gens, ça m'est revenu. Donc, je croyais que les gens n'avaient pas reçu le mail ou c'était erroné. Or, ils avaient reçu le mail. Et d'autres fois, je ne reçois rien, je ne sais pas pourquoi, en fait, ils n'ont jamais reçu le mail. Donc, c'est un peu compliqué à gérer. Donc, si vous ne le recevez pas, la meilleure chose, c'est qu'en fait, je vous réponde à un mail que vous m'envoyez. Ça, on est sûr que ça marche.
Vous avez compris ?
Oui, d'accord.
Philosophie de la nature, philosophie de
la
théologie.
Non, peut-être pas. Enfin, pareil. Philosophie de la nature, philosophie de l'homme. Ensuite, deux cours de patristique, les pères de l'Église, avec le père Thomas Weber, donc curé de Pontivy, qui est spécialiste hein, de cette question. Voilà, je pense que c'est un cours sur Origène et un cours sur Saint-Augustin. Ensuite, nous retrouverons Irène Château-Thierry pour deux cours sur l'art chrétien. Et nous vous proposerons ce qu'on a appelé des satellites. Voilà, avec des
patrimoine et foi.
Voilà, où il y aura le cours ici, mais on vous proposera ben voilà, de vivre l'art chrétien sur place, dans une chapelle, dans une église, voilà, pour mieux appréhender tout ce que vous aurez appris jusqu'à cette date-là, en philosophie et en théologie. Et on terminera par Monseigneur Santène. L'église, et ensuite les autres cours, sont déplacés à la rentrée de septembre 2021, voilà, pour vous permettre de finir votre cursus et d'obtenir le certificat tant attendu voilà, pour la Toussaint. D'accord ? Au lendemain de son élection, le pape François nous a remis en mémoire ce qu'il a appelé, j'aime beaucoup cette expression, la douce joie d'évangéliser. Et il a cité dans l'une de ses premières homélies, cette phrase, en référence avec Evangelium Nuntiandi de Paul VI, de Saint Paul VI, l'évangélisation dans le monde moderne. Et il a repris cette célèbre citation qui a fait le tour du monde, hein, de Paul VI, l'homme contemporain écoute plus volontiers les témoins que les maîtres. Ou s'il écoute les maîtres, c'est parce qu'ils sont des témoins. Et c'est ce que va essayer de faire cet institut de formation diocésain. Cherchez à nourrir, à vous nourrir, cherchez à éclairer, je l'espère de manière simple, de manière progressive, nourrir et éclairer l'intelligence de la foi. Nourrir et éclairer l'agir chrétien au contact de la parole de Dieu et au contact de la tradition de l'Église. Pourquoi ? Parce que nombre de nos contemporains ont un besoin urgent d'avoir des éléments de réponse aux questions que pose le sens à donner à la vie. Beaucoup, de plus en plus de gens se posent cette question. Qu'est-ce que la vie ? D'où est-ce que je viens ? Qui suis-je ? Où vais-je ? En référence au Concile Vatican II, je crois que nous pouvons rechercher une nouvelle étincelle. Garder la joie, l'espérance. Car je pense que le temps est venu de penser d'une nouvelle manière les voies de l'histoire et les destinées de notre monde. Pour, je cite, Éphésiens 4, 24, ne vous inquiétez pas, j'ai bientôt fini. Éphésiens 4, 24, revêtir l'homme nouveau en nous, créé à l'image de Dieu. Revêtir l'homme nouveau en nous, créé à l'image de Dieu. Je dis ça en lien avec le Gravissimum Educationis, qui est le document par excellence encore aujourd'hui sur l'éducation chrétienne. Et je terminerai par vous parler de John Henry Newman, du cardinal Newman, de Saint John Henry Newman, qui considérait la formation permanente des chrétiens, la formation continue des chrétiens, qui considérait l'éducation catholique authentique comme la réparation de la personne humaine qui a été désintégrée par le péché originel. Se former, être éduqué de manière catholique, de manière authentique, c'est réparer la personne humaine désintégrée par le péché originel. C'est cela, la formation intégrale de la personne humaine. Recoller petit à petit les morceaux, ne pas tout séparer, mais avoir une vision intégrale de la personne humaine. C'est éminemment actuel. Et dans cette superbe homélie, c'est de l'idée d'université de Newman, que je vous conseille aussi, mais je vous conseille tellement de trucs, et puis il n'y a pas que moi, vous allez avoir les autres aussi qui m'ont conseillé leur manuel préféré. Voilà. De l'idée d'université de Newman, c'est un recueil qui recense des sermons que le cardinal, enfin, il n'était pas cardinal à l'époque, mais que le jeune prêtre Newman a prononcé dans une célèbre église de Dublin dans les années 1854-1858 et en 1856 dans l'église, dans la chapelle de l'université de Dublin, Newman, comme il savait le faire dans ses homélies, envoie paître ses ouailles. C'est jamais bien. Regardez comment vous avancez, vous agissez. Et il critique les Irlandais, les catholiques, enfin les protestants, pardon, à l'époque, les protestants, et ensuite il fera de même avec les catholiques, mais en premier lieu les protestants, les hommes ou les femmes de confession protestante. Il dit que ces hommes et ces femmes ont tendance soit à se polariser sur le savoir, en oubliant la moralité, ou alors d'avoir toujours des principes moralisateurs, et d'oublier, le savoir. Et il dit ceci, en conclusion de cette superbe homélie, et je pense que nous sommes toutes et tous confrontés, pas uniquement les protestants du 19e siècle, mais nous aussi ce soir, à ce qu'il écrit. L'âme de chaque personne est sujette à des appels conflictuels de l'intelligence, de la conscience, de la passion, des appétits, tous se faisant la guerre dans son cœur et chacun essayant de prendre possession de lui. Eh bien, chers amis, la formation intégrale de la personne humaine, c'est cela, c'est faire en sorte que cette guerre dans le cœur de l'homme, dans le cœur de la femme, cesse et soit en paix. Une formation intégrale de la personne humaine, c'est cela que nous allons vous proposer par l'apologétique, une formation qui sera ordonnée, nous l'espérons, à la vérité, avec un grand V, pas la mienne, intéresse personne, la vérité avec un grand V dans tous ses aspects. Je pense que cette formation intégrale a vocation et ouvrir, a vocation et pour mission aussi, d'ouvrir au sein de la culture moderne, d'ouvrir un véritable horizon d'espérance Ce sera cela, je l'espère, l'Athénée. Je vous remercie. Et avant de terminer, je vous conseille, avec le père Fagueux, que c'est que des bouquins, notre budget va être grévé cette année. Hein. On dit qu'il faut consommer. Non, vraiment, trêve de plaisanterie. Avant tous les ouvrages et les conseils de lecture que je vous ai donnés, ne vous moquez pas, je me permettrai pas. Quand je suis arrivé, j'avais 38 ans à Rome pour faire mes études, on me dit, ben voilà, tu vas comment, mon sœur me dit, ben, vous allez passer 5 ans à Rome, vous allez faire votre bac de philosophie, votre bac de théologie. Oh, la philo à 38 ans, je n'en ai pas fait depuis la terminale. Hein. Et donc, on avait un directeur des études au séminaire pontifical français, et je lui dis, écoute, les profs vont te donner, comme ce que j'ai fait ce soir, chère madame, les profs vont donner plein de bouquins qui les passionnent. Par contre, d'ici Noël, je te demande de lire ce livre. Ça va vraiment t'aider. Et vraiment, ça, c'est le conseil numéro un devant tout. Bien sûr, il y a la Bible, mais ça, je ne vais pas vous la conseiller, vous le savez. C'est Jeanne Hersch, H-E-R-S-C-H, L'étonnement philosophique, une histoire de la philosophie. Ce sont des petits chapitres qui vous présentent saint Augustin, saint Thomas d'Aquin, Emmanuel Kant, Spinoza, Aristote, Platon, Socrate, Zénon, Héraclite. C'est très facile à lire. Certains passages, peut-être vous aurez besoin de les lire 2-3 fois, mais vraiment, c'est accessible. L'étonnement philosophique, livre de philosophie. Alors peut-être le frère Innocent, la prochaine fois, va vous dire que le père Fagot est un petit joueur, hein, mais voilà. Et la théologie catholique, une petite synthèse, de Jean-Pierre Torel, T-O-2-R-E-2-L, c'est un dominicain, aux éditions du CERF. La théologie catholique de Jean-Pierre Torel, c'est une petite synthèse. Hein. J'arrête là, sinon je vais recevoir des pierres. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Et à très bientôt. Et portez-vous bien surtout.